Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado-diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 107 et l'épisode numéro 7 de cette saison 4. Excusez-moi encore la qualité du micro. Ça sera un nouveau châssis pour le bulletin GP. Mais bon. Au moins, si vous entendez bien, c'est ça le plus important. J'espère que ça ne va pas affecter la qualité du son. Alors, cette semaine, on va parler de Formule 1 et de Formule électrique parce qu'on va parler de Miami, la prochaine course de la saison, mais on va parler plutôt des résidents qui font parler d'eux. Et on va parler ensuite de l'annulation et du report du E-Prix de Vancouver qui devait avoir lieu le 2 juillet à Vancouver, dans le centre-ville de Vancouver. Donc, on va en parler. Et pour ce faire, j'accueille avec moi Ana Maria Mercado López. Salut, Ana Maria.
Salut.
Comment vas-tu?
Ça va très bien.
Super, content d'apprendre ça. Et j'accueille avec moi un revenant, comme toujours, et c'est Julien Légaré-Turcotte de La Monoplace. Salut, Julien.
Bonsoir, Abdou. Bonsoir, Anna.
Comment vas-tu?
Ça va bien. Très heureux d'être avec vous ce soir, comme d'habitude. Puis je te remercie, Abdou, pour l'invitation.
Ah, écoute, ça me fait grandement plaisir. Et surtout, dans le sujet dont on va parler tout de suite, d'ailleurs, je pense que ta présence est plus que bienvenue, évidemment, comme toujours, mais celui-là, c'est très important, en fait. Parce que, évidemment, la prochaine épreuve de Formule 1 sera la toute première à Miami, le Grand Prix de Miami qui aura lieu autour du Hard Rock Stadium, domicile des Dolphins de Miami dans la NFL, et qui est pas très loin aussi de plusieurs courts de tennis où le Open de Miami, que ce soit dans la WTA ou dans l'ATP aussi. Évidemment, il y a une frénésie autour du Grand Prix de Miami parce que c'est une course dans une des plus grandes villes aux États-Unis et au monde, évidemment. Mais évidemment, il y a cet envers de la médaille parce que, encore depuis la semaine dernière, les résidents de Miami Gardens, là où se situe le Hard Rock Stadium et le circuit urbain de Miami, ont tenté d'annuler la course. Malheureusement, la décision qui a été remise par le juge du comté de Miami-Dade, Alan Fine, a été rejetée. Cependant, il va y avoir des tests de son pour savoir est-ce que c'est quelque chose, c'est un événement qui est jugé, disons, sécuritaire de manière au niveau des oreilles, en fait. Et évidemment, Julien, on va commencer par toi parce que, évidemment, outre être un des cofondateurs de la Monoplace, a.k.a. anciennement F1 Québec, tu es avocat à la base aussi. Donc, j'aimerais avoir en fait ton opinion non seulement sur la décision du juge, mais aussi sur généralement en fait l'idée de, ben, disons, d'organiser le Grand Prix dans un comté qui historiquement a été obligé de protester en fait.
Alors, merci Abdou, c'est une très bonne question que tu poses. D'abord, ce qui a été demandé au juge, c'est fait par injonction. Donc, lorsqu'on parle d'une injonction, c'est une ordonnance du tribunal pour forcer une partie à ne pas faire quelque chose. J'y vais très grossièrement, mais c'est ce que ça veut dire au final. Par exemple, on pourrait y aller d'une injonction où on demande à des manifestants de ne pas manifester devant un tel lieu. Ici, on parle des résidents, de certains résidents de Miami qui ont demandé par injonction, donc par un ordre provenant de la cour, d'annuler le Grand Prix de Miami. Puis les raisons qui étaient alléguées par les résidents étaient que le Grand Prix allait causer des dommages auditifs irréversibles envers les citoyens. Le juge, d'abord, dans les premières délibérations des parties, a voulu évaluer est-ce qu'il y a réellement des dommages irréversibles qui peuvent être faits pour ces citoyens-là. Puis, ce qu'il a mentionné dans le début des audiences, c'était qu'il n'y avait pas de preuves vraiment solide comme quoi, avec la technologie actuelle des Formule 1, les dommages causés peuvent être graves à un point tel que les dommages ne pourront jamais revenir comme avant. Là. Puis, c'est sans oublier que dans une demande d'injonction, là, c'est la partie qui fait la demande, c'est la partie qui demande l'annulation d'un événement qui a le fardeau de la preuve. Donc, la Formule 1, elle, est partie prenante de la demande d'injonction, mais ça, le fardeau de la preuve pour démontrer que ça allait générer des problèmes auditifs, ça revenait aux résidents de Miami. Puis, de l'opinion du juge, en fait, il n'a pas dit que ça causerait pas de dommages irréversibles, mais il a mentionné qu'il n'y avait pas de preuves assez solides pour y aller d'une injonction en ce sens. De sorte que, comme tu l'as mentionné, Abdou, ce que le juge a dit, c'est ben, on va tenir l'événement quand même. On va installer des appareils pour détecter vraiment le son, les décibels que le Grand Prix va générer. Et par la suite, peut-être que pour les éditions ultérieures, ben, soit qu'on va demander carrément l'annulation, ou bien qu'on va demander des mesures supplémentaires pour que le bruit soit réduit. Puis il faut dire que la Formule 1, en considération de ce Grand Prix-là, avait quand même fait beaucoup d'efforts déjà. Le premier tracé qui devait être dans un quartier plus résidentiel a été finalement annulé. Puis la deuxième chose, c'est qu'un mur de son a été installé par la ville de Miami, un mur plutôt bloquant le son, justement pour mitiger les effets sonores là, de ce Grand Prix-là, de sorte que finalement, le Grand Prix aura bel et bien lieu, mais tout de même, la F1 devra faire des efforts pour s'assurer que d'autres éditions pourront se tenir par la suite.
Pardon, oui, effectivement, ce sont de très bons points, un très bon résumé que tu apportes, Julien. Maintenant, Anna Maria, je vais te poser la question. Là, Miami a tenté, malheureusement en vain pour eux, de faire invalider la course en tant que telle, mais moi, je trouve que il mérite une voix parce que, évidemment, c'est pas comme par exemple plusieurs circuits urbains, comme ici à Montréal, le circuit Gilles Villeneuve, c'est pas un Grand Prix qui est là depuis des années et que finalement on décide de dire ah ben ça commence à être trop bruyant. C'est un Grand Prix qui a été imposé. Je vais essayer de limiter un peu ce que je dis, mais c'est un où on a décidé d'implanter un circuit urbain proche de Miami Gardens et évidemment, ils ne sont pas très contents de cela parce que c'est quelque chose dont je pense qu'ils ont été consultés, mais ils étaient majoritairement pas d'accord. Est-ce que tu crois que, à la place de se moquer d'eux, comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, on devrait les écouter attentivement?
Non, mais regarde, dans le contexte, il faut voir aussi. C'est comme on dit, comme demander, par exemple, à Vegas, non, on ne veut pas de Grand Prix parce que ça nous dérange la bruit. On sait déjà que c'est des villes qui déjà, naturellement, avec toute la vie qui est là, il y a beaucoup de bruit déjà. On prend aussi, et à côté d'un stade, il y a beaucoup plus de mouvements pendant l'année que pendant les trois jours de Formule 1. Et l'autre question, c'est que ça n'empêche pas le monde de continuer à vivre comme si sa vie normale. Parce qu'il était fait dans une propriété privée aussi. il faut prendre comme ça, était pas fait sur la comme sur la route de la ville fermée. Et avançant, qui n'était pas approuvé la Formule 1 à Miami, parce que les tracés qui étaient montrés, ils étaient proches d'un parc, d'un quartier résidentiel, et là, ils étaient annulés parce que les résidents, oui, ont demandé l'annulation. La question, ce n'était pas l'abri, c'était plutôt que ça empêchait les résidents de son accès normal à, dans sa propriété, dans sa maison, d'aller au parc comme d'habitude. C'est ça, il coupait un peu la vie normale des résidents. Maintenant, la question, c'est des bruits. Et comme l'a dit Julien, si il demande une injonction parce que ça peut causer des dommages irréversibles, il faut qu'il montre la preuve. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Que, oui, la Formule 1, avant, il causait des dommages, mais pas à court terme. C'était plutôt pour les personnes qui travaillaient dedans, qui était tout le temps avec les autos. C'est pas juste parce que tu étais allé au Grand Prix et ça te cassait les autos. Et à partir de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Que maintenant, le moteur aussi de la Formule 1, il fait beaucoup moins de bruit. Question que si on n'est pas proche des autos, on ne les écoute pas. Et même si on va à un Grand Prix, on n'a pas besoin de mettre des bouchons d'oreilles comme avant. Parce que les indicateurs, ils font plus de bruit et toutes les autres catégories qui ne sont pas la Formule 1, ils font beaucoup plus de bruit à l'exception de la Formule E, qui est maintenant la Formule 1 de la façon qui était construit les moteurs.
Mais juste pour renchérir un peu avant de laisser parler Julien, Miami a déjà accueilli une course de Formule E dans le quartier genre de Key Biscayne, là où se trouve justement Julien, le American Airlines Center, le domicile du Heat de Miami et de notre ami Jimmy Butler. Évidemment, on lui souhaite de gagner le match 5 ce soir, au moment où on enregistre. Mais le Grand Prix de Miami a été un échec total au final parce qu'il y a eu un leurre, si on peut dire, sur disons, le fait que ça va être vert et tout, évidemment. Donc, Julien, tu voulais renchérir sur... tu voulais faire une comparaison sur avec le Grand Prix du Canada, notre cher Grand Prix du Canada, avec la situation de Miami Gardens.
Oui, tout à fait, parce que tu as posé une question précédemment qui était de savoir est-ce que on doit écouter les citoyens, les résidents de Miami qui s'opposent à la tenue d'un Grand Prix. Puis la réponse est oui, et puis je suis sensible à leur situation, puis je pense qu'on doit l'être, parce qu'ils ont des préoccupations qui sont réelles. Ils pensent véritablement qu'ils peuvent perdre l'audition avec la tenue d'un Grand Prix, puis ça demeure des effets qui sont dévastateurs, même s'ils ont tort. Donc, j'aimerais faire la comparaison avec ce qui s'est produit notamment en 2015 entre le Grand Prix du Canada et les résidents de Saint-Lambert, où les résidents de Saint-Lambert ont demandé une ordonnance de sauvegarde pour obliger tous les événements, dont le Grand Prix du Canada, de ne pas générer de bruit à plus qu'un niveau de décibel. Lorsqu'on demande une ordonnance de sauvegarde à un juge, il faut démontrer que notre situation est urgente. Puis c'est sur ce motif-là que le juge de la Cour supérieure de l'époque avait dit « Ben non, c'est pas une demande qui peut être considérée comme étant urgente, de sorte que je rejette votre ordonnance de sauvegarde. » Ceci étant dit, la Ville de Montréal et la Ville de Saint-Lambert, par la suite, en 2020, après de multiples négociations, se sont entendus pour que les événements qui se tiennent au parc Jean-Drapeau génèrent moins de bruit. Cependant, il y a une exception qui a été faite pour la fin de semaine du Grand Prix du Canada, étant donné que les retombées économiques sont immenses. Et je pense qu'avec des négociations de bonne foi, lorsqu'il y a une écoute réelle entre deux parties, ben on peut en arriver à une entente qui est bonne pour tout le monde. Puis je pense que Miami, du moins les résidents de Miami, devraient tenter de faire un peu la même chose avec la F1, c'est-à-dire des négociations de bonne foi.
Je suis tout à fait d'accord. Et d'autant plus que, pour revenir au cas de Miami Gardens, Même quand le Hard Rock Stadium a été construit en 1985, donc ça fait déjà plus que 30 ans, bientôt 40, la population aussi n'est pas d'accord avec la construction d'un stade à cet endroit proche, sachant que, bon, avec les Dolphins, dans le temps, les Marlins de Miami au baseball, et les nombreux événements qui vont générer beaucoup d'attractions autour du stade et à l'intérieur vont créer du tapage, que ce soit auditif, un nocturne étant soirée, par exemple des combats de boxe. Il y en a eu justement l'année dernière avec Logan Paul contre Floyd Mayweather. Évidemment, ce sont des trucs qui peuvent déranger une population. Donc, c'est quelque chose, même si dans le cas de la Formule 1, on n'a pas encore de preuves que ça va causer des problèmes. Il faut qu'on donne la chance aux coureurs. Et évidemment, des contrats de 10 ans, certes, peut-être dans l'optique de 2022, il y a quelque sorte, ça peut être coulé dans le béton, mais un contrat peut être brisé. Et un exemple qui s'est produit, c'est le Grand Prix de Washington dans la American Le Mans Series, dont le circuit était dans le stationnement du RFK Stadium de Washington, que je surnomme un biscuit sec parce qu'il s'est grainé tellement là. Écoute, je suis allé à Washington il y a une dizaine d'années, puis ce stade est en décrépitude là. Donc il y a une course dans le stationnement du RFK Stadium, mais à côté, pas très loin, il y avait un quartier résidentiel, et d'endurance de la American Le Mans Series sont très bruyantes. Là, on parle de V8 6 litres. Là. On ne parle pas de V6 turbo-hybride, là, comme on entend, qui sont moins bruyants. Ça, c'est très fort. Donc, cette course, il y avait un contrat de 10 ans pour cette épreuve. Donc, c'est-à-dire terminer jusqu'en 2011-2012. Mais après la première année, la course a été complètement annulée. C'était très bruyant, ça dérangeait, malgré le fait que, bon, il y avait un mur de son, mais c'était pas assez pour contrer, en fait, une vingtaine de voitures avec des moteurs super puissants. Donc, c'est possible que si le juge dit, ben, oui, en effet, les Formule 1 actuelles génèrent trop de bruit dans la région proche de la zone résidentielle du Miami Gardens. Ben oui, il y a possibilité d'invalider le contrat, de forcer à valider le contrat. Mais je veux dire, trouver un autre endroit où tenir le Grand Prix de Miami, c'est possible. Sinon, c'est merci, bonsoir. Donc, il existe des trucs du genre, puis même, je dirais à la limite, le prix de Montréal, le circuit, bon, on ne reviendra pas sur l'aspect politique, mais je trouve que le circuit était mal choisi aussi, parce que c'était dans un quartier un peu résidentiel, mais surtout un peu difficile d'accès, ou surtout le boulevard NLX, c'est quand même un gros boulevard aussi, donc... Ouais. Dans tout ça, ben oui. Je crois que il faut pas prendre les résidents qui ne veulent pas d'avoir le Grand Prix pour des deux pics, loin de là. Parce que je crois qu'il y a peut-être quelque chose de valable. Et justement, j'écoutais le podcast qui s'appelle Racing Incident, qui a été d'ailleurs l'inspiration de cette discussion qui s'appelle l'épisode s'appelle Out of Touch with Reality, qui explique en fait en plus en détail le contexte dans lequel les résidents de Miami se retrouvent. Et non seulement ça, je trouve aussi que Ben, non seulement on prend les résidents qui ne veulent pas pour des pics, mais on les ridiculise, comme tu disais, Julien, sur les réseaux sociaux. Je pense qu'effectivement, il faut être sensible à la réalité actuelle. Parce que, Anna Maria, je ne sais pas si tu te souviens, mais l'année dernière, on avait, avec Marc-André, enregistré un podcast sur, en fait, cette tendance pour la Formule 1 à aller vers des circuits urbains. Évidemment, on va voir Vegas l'année prochaine. Si jamais il devait y avoir un deuxième Grand Prix de Chine, ce serait fort probablement dans un circuit urbain. Et peut-être même, je pense, le Grand Prix du Qatar pourrait, à partir de 2023, être sur un circuit urbain. Ce sont les dernières rumeurs qu'il y a. Donc, évidemment, il y a cette tendance pour la Formule 1 d'aller dans les circuits urbains pour attirer le plus de monde possible. Mais évidemment, ça va créer un capharnaüm urbain. Et justement, je me souviens, il y a de cela une dizaine d'années, je lisais je l'avais jamais fini au final, mais un livre qui s'appelle en français Mégalomanie urbaine de Mark Douglas Laws, qui parlait justement du Molson Indy de Vancouver qui avait lieu entre 90 et 2004. Et justement, la population avait dit, justement, là où se trouve le E-Prix de Vancouver, qui aurait dû avoir lieu cette année, c'est trop bruyant parce que les turquoises sont extrêmement bruyantes, contrairement à ce qu'on voit cette année. Et une des options, ça a été de déplacer la course ailleurs au Hastings Park. Mais finalement, ça n'a pas eu lieu. Le contrat n'a jamais été renouvelé et Vancouver a perdu son événement annuel qui rapportait, disons, le plus d'argent possible. Donc, il ne faut pas sous-estimer la force d'une population locale et municipale aussi parce que il peut y avoir des arguments en béton et qui peuvent peser contre la tenue d'une course automobile, surtout sur un circuit urbain.
Mais regarde, il y a plusieurs points à regarder. Un des premiers points, c'est que actuellement aussi, les voitures, ils sont pas faits pour un circuit urbain. Et oui, ça peut se faire, la Formule 1, mais disons cette année, par exemple, avec tout ce qui est la nouvelle réglementation, les voitures ne sont pas faites pour ça. Et il faut comprendre aussi que, avec ce que tu parles, les soucis de l'environnement, c'est toujours diaboliser les voitures, même si c'est électrique, ça n'a pas marché, mais que c'est la première chose. Parce que, tu peux regarder, il y a des villes, si on parle de Montréal, il y a des gens qui se plaignaient de Grand Prix parce qu'ils faisaient beaucoup de bruit, mais en même temps, il y avait Oslaga, il y a plein de festivals à Montréal pendant tout l'été que tu arrives, tu ne peux même pas circuler parce que toutes les voies sont fermées et il y a plein de bruit. C'est juste parce que les voitures, ça aussi arrive avec la conscientisation, l'environnement, c'est trop de gaz, c'est polluant, mais que c'est normal que maintenant tout ce qui est polluant, on le diabolise. C'est un circuit traditionnel, et même les circuits traditionnels, ils se font poursuivre parce qu'ils font des bruits. Et il y en a ici des circuits qui sont fermés, on fait la place pour les voitures, et même ça, le monde y est dérangé avec ça. Donc, il faut voir tout ça. Après, on parle des circuits urbains, Azerbaïdjan, on parle de Chine, on parle de Qatar, Jeddah, mais là, tu sais, c'est quoi mon opinion? Là, les résidents n'ont rien à dire. Là, on fait les contrats, on fait les circuits et le gouvernement, il prend la décision et il veut ce qu'il veut. parce que, par exemple, Azerbaïdjan, même le premier Grand Prix Azerbaïdjan, les résidents n'avaient même pas le droit d'aller sur son balcon pour regarder le Grand Prix. Et que ça, il faut aussi voir le côté de la... Comme on dit.
La différence, je dois dire, c'est que pour Miami, c'est un contraste entièrement fait entre la Formule 1 et des entités privées, étant Stephen Ross, le propriétaire des Dolphins. Donc ça, c'est la différence. Là, c'est pas le gouvernement qui va trouver, avec l'aide, par exemple, un Herman Tilke pour trouver l'endroit où construire un circuit urbain. Là, c'est un contrat entre la Formule 1 et une entreprise privée, un contrat assuré par la Formule 1 en tant que telle. Il n'y a aucun gouvernement au temps de la Floride, encore moins, je ne veux pas entendre parler d'eux actuellement, que municipal. Donc, il n'y a rien de ça, c'est vraiment privé. Et puis, même si je peux rebondir un peu sur Rock Stadium, même la population pour rénover le stade, pour le mettre à jour, la population a refusé de mettre leur propre argent pour rénover le stade. Julien, tu voulais ajouter?
C'est l'autre point que
je vais juste laisser parler Julien avant tout.
Oui, juste sur ce point-là, oui, c'est vrai que les intérêts et l'organisation du Grand Prix de Miami le tout se fait vraiment entre le Hard Rock Stadium et ainsi que la Formule 1. Ceci dit, rien n'empêche, puis toute réserve là, mais rien n'empêche normalement la réglementation municipale, par exemple, d'interdire certains types d'événements, même si ça se produit sur un territoire privé, notamment parce que la tenue d'un événement enlèverait la perte de jouissance de la propriété d'une autre partie. Puis cette partie-là, ce serait les résidents qui pourraient plus jouir de leur propre propriété parce que ils seraient à cause qu'il y a trop de bruit. Fait que même si c'est des intérêts privés, il faut quand même faire attention parce que le gouvernement peut quand même, sans trop de problèmes, ou la cour peut intervenir d'une façon ou d'une autre.
Mm-hmm. Anna Maria?
C'est ça que je voulais dire aussi, que la Formule 1 à Miami s'est fait. Il n'y a pas un permis gouvernemental ou de la ville à faire la course. C'est vraiment, comme tu l'avais dit, c'est vraiment un accord privé entre deux parties comme faire un concert de musique, et ils ont dit on va faire le Grand Prix. Ils se sont mis d'accord parce qu'avec la ville, ils n'ont pas arrivé à un accord. Ils étaient toujours opposés entre la population et le gouvernement municipal. Et il n'y a eu pas aucun accord. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, maintenant que c'est un accord privé, la ville non plus n'intervient pas. Il dit, on n'a pas donné le permis parce que, en plus, il lave les mains en disant, on n'a pas donné la permission, parce que aller en cours. Et il faut écouter, c'est sûr, il faut écouter, mais il faut voir maintenant, ça va donner quoi après. Parce que oui, il y a un contrat, mais on ne sait pas si ça va marcher, qu'est-ce qu'on va voir comme cours. C'est la première fois depuis. C'est la première fois qu'on va voir ça. Et on attend les résultats. Pour le moment, tout indique que la course ne sera pas annulée.
Non, c'est ça. Pour cette année, c'est clair que la course aura lieu. De toute façon, l'équipage des voitures de la FIA sont déjà là. Le circuit est prêt. Donc, ce serait énormément surprenant de voir une annulation de dernière minute. Mais, comme on l'a dit, rien n'empêche le juge, soit quelques semaines plus tard, ou bien même au début de l'année 2023, par exemple, de dire, il n'y a plus de course de Formule 1 à cet endroit parce que c'est jugé très nocif pour la population. Probablement, j'ai peut-être peur si on regarde dans un aspect, parce que moi personnellement, j'ai hâte au Grand Prix de Miami. Miami a une histoire longue pour la course automobile, non seulement avec la formule électrique, mais aussi le Champ Car, les courses d'endurance aussi qui ont lieu sur les circuits urbains dans les rues de Miami depuis les années 80. Alors, quelque chose comme cela peut vraiment mettre une... Oui, puis il y a Juan Pablo Montoya qui sera là aussi. Mais
mais c'est ça donc que je voulais te dire. Ben, oui. Il y a d'autres événements qui vont se faire, mais lui, Montoya, il n'est pas à la course. C'est plus loin. C'est plus loin des circuits et personne ne se plaint de ça. C'est avec des voitures de, je sais pas, de NASCAR ou d'IndyCar. C'est ça qui m'intriguait parce que je pensais que c'était à la Formule 1. Après, j'ai demandé à quelqu'un qui habite à Miami, il dit, ah, mon tour sera là. Il me dit, non, Anna, c'est plus loin. C'est dans un parc plus loin. Il va y avoir un gros événement. Les tickets sont 35 $. Il y a de la musique, de l'alcool. Des pilotes, c'est ça ce que je trouve un peu contradictoire, qu'il y a beaucoup d'autres choses qui se font et personne ne se plaint. Mais oui, je suis d'accord que les résidences doivent être écoutées, mais quand même, pourquoi la Formule 1, pendant que d'autres événements qui sont mis à cause de qui la Formule 1 est là, ils sont pas annulés, personne se plaint parce que lui, l'événement où est Montoya, il y aura trois pilotes d'IndyCar, ils n'ont rien à voir avec Liberty. Mm-hmm. C'est ça, ils n'ont rien à voir avec Liberty, mais il va se faire.
Et puis, Julien, j'ai envie de te poser la question. Admettons que, le juge dit, on trouve que c'est trop bruyant, plus de Formule 1 à Miami Garden, si on peut dire. Est-ce que la Formule 1 peut avoir un droit de réplique pour dire, écoutez, nous, on a un contrat ici, on a signé un contrat, on doit le respecter, Est-ce que tu crois que c'est quelque chose que la Formule 1 pourrait avoir droit d'appel si jamais on disait après
Je pense que oui. Si un contrat qui est signé puis par la suite un juge émet une ordonnance ou vraiment un jugement complet comme quoi on empêche la tenue d'un événement à long terme, certainement que la Formule 1 pourrait demander une compensation en ce sens là. À savoir dans quelle mesure. Je suis pas du tout expert en droit américain, mais si par exemple une situation comme ça se produit au Canada, puis on l'a vu à Montréal lorsque le Grand Prix de Formule 1 a été annulé, la TRIC a demandé d'être compensée, notamment par la Ville de Montréal et d'autres acteurs autour de la Ville de Montréal. On peut penser au gouvernement du Canada, au gouvernement du Québec, qui ont été obligés de verser une certaine redevance à la Formule 1 pour ce qu'on peut appeler une résiliation unilatérale du contrat. Pour ce qui est de la situation aux États-Unis que tu as évoquée, ça serait un peu différent. Parce que là, cette résiliation donc une résiliation, une annulation qui est générée par une seule partie, ici, ce serait causé par un jugement. Qu'est-ce qui s'offrirait à la Formule 1 dans ce cas-là? Certainement qu'il pourrait aller en appel. Je suis pas du tout expert dans le processus d'appel en Floride, mais ils ont certainement une cour qui est d'appel, une cour supérieure. Permettrait de rentendre un jugement, puis par la suite, il y aurait d'autres instances. Mais disons que l'annulation se maintient. Je pense que la Formule 1, il y aurait façon pour eux de demander d'obtenir un dédommagement, notamment pour la raison que vous avez accepté de prime abord qu'on tienne un événement sur plusieurs années où vous courez à Miami. Par la suite, il y a une décision qui rend ça illégal. Nous, ça nous a coûté tel montant pour en arriver à une telle entente. Donc, on souhaite être dédommagé pour ça. On pourrait même y aller pour un dédommagement sur la perte de revenus anticipés. Parfois, ça peut se faire. Il peut y avoir des dommages punitifs. Bref, c'est une question qui est très large, mais au final, oui, il y aurait possibilité de dédommagement.
Et je voudrais dire quelque chose, mais je ne suis pas avocat, rien. Mais il faut prendre en compte que celui qui était poursuivi, c'est le promoteur. Ce n'est pas Liberty qui était poursuivi pour les résidents, c'est le promoteur. Parce que Liberty, la Formule 1, ils signent un contrat avec le promoteur. Dans le cas de les prix de Montréal, le promoteur, c'était la ville de Montréal. Dans le cas de Miami, le promoteur, c'est lui avec qui lui a signé un contrat, parce que c'est le promoteur à répondre à la Formule 1. Dans ce cas-là, la Formule 1, il n'y a rien à demander aux résidents, aux juges, ou non. La Formule 1 va juste demander au promoteur, ben, si vous décidez d'annuler un contrat, qu'est-ce qui s'est passé? Habituellement, la Formule 1, quand ils signent un contrat, il y a des clauses qui permettent l'annulation dans certains cas, mais c'est sûr que si c'est annulé, Liberty ne va pas aller contre la ville, il ne va pas aller contre les juges ou contre les résidents, il va juste demander au promoteur les dédommagements. Et à partir de là, c'est le promoteur qui s'occupe de tout. Si lui veut poursuivre la ville, il veut poursuivre les juges ou les résidents, ben, c'est à lui de le faire. Mais c'est ça, la Formule 1 s'assure, ils vont s'assurer de faire alliance avec quelqu'un. D'habitude, le promoteur, c'est lui qui répond pour les contrats. C'est pas. Il n'y a pas ça, toucher des choses ou des choses qui se passent dans la ville où se tient le Grand Prix.
Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Évidemment, le Grand Prix de Miami aura bel et bien lieu du 6 au 8 mai, mais évidemment, on n'a pas fini d'entendre parler de cette bataille entre les résidents de Miami Gardens et le Grand Prix de Miami, parce que évidemment, il peut y avoir un impact majeur sur la tenue à long terme. Évidemment, c'est quelque chose qu'on va surveiller de très près. Je parlais de Vancouver. Eh bien, malheureusement, on a appris vendredi soir que le Hybrid de Vancouver, qui devait avoir lieu le samedi 2 juin, a été annulé et reporté en 2023. L'épreuve devait avoir lieu à Falls Creek, dans le même endroit où non seulement se trouve le BC Place, le Rogers Arena où se situent les Canucks de Vancouver, mais aussi là où avait lieu le Molson Indy de Vancouver en kart. Donc, l'organisation était assumée par un groupe montréalais, un groupe de promoteurs montréalais, OSS Group. Et malheureusement, ils n'ont pas eu le temps alloué pour finaliser en fait la tenue de l'événement, qui devait être réuni en fait sur 3 jours. Sur un genre de festival qu'on appelle le E-Fest. Anna-Maria, Julien, est-ce que quelle est votre réaction suite à l'annulation du E-Prix de Vancouver? Je vais commencer avec Julien. Tiens.
Visiblement, la relation entre le Canada et la Formule 1 est très mauvaise. Là. Bien qu'on parle seulement d'un report présentement pour 2023, si vraiment ça va avoir lieu en 2023, parce que je reprends les propos du maire de Vancouver par rapport à l'annulation du Grand Prix de Formule E en 2022, qui mentionnait que ça pourrait être un fiasco d'un montant de 35 millions de dollars pour les résidents de Trois-Rivières. Vancouver. Donc là, avec des commentaires comme ça, ben ça dénote pas une ambiance de coopération vraiment entre la ville et la événement, ça dénote plutôt d'une perception très, très négative, notamment pour les contribuables, la tenue de cet événement-là. Donc, disons, je suis très inquiet d'une tenue éventuelle de ce Grand Prix-là. Faut le dire, le seul précédent qu'il y a entre la Formule 1 puis le Canada, ben c'était Montréal en 2017, qui est un fiasco qui aura fait mal à Denis Coderre encore lors de sa dernière campagne électorale. Donc, il y a un coup politique extrêmement gras envers la Formule 1, puis toute municipalité, voire gouvernement provincial ou fédéral. Donc, ça semble être une patate chaude. Puis c'est encore un coup dur pour la Formule 1 qui essaie de s'installer, qui perd des écuries, qui perd des partenaires importants, puis finalement, ben qui perd des lieux pour tenir ces événements. Vraiment, si je suis la Formule 1, je suis inquiet.
Mais c'est très contradictoire aussi, parce que c'est ça, c'est la Formule 1 qui veut vendre l'électrique et pas pollution, toutes les marques de voitures, ils sont là en train de montrer sa nouvelle technologie. À Montréal, oui, c'était un fiasco de côté politique, mais côté course, il était pas mal, de très bon. Oui. L'événement comme tal, il était très bon, j'étais là. Ouais, mais je dis, côté environnemental, c'est contradictoire. Pourquoi? Parce que la ville de Montréal a dit c'est un fiasco parce qu'on a perdu, je ne sais pas, 5 ou 10 millions, ce n'est pas non plus la grosse affaire. Et j'étais surpris parce que Madame Plante a gagné ça en disant oui, on va annuler si moi je suis élue. Elle était élue et annule les prix qu'il y avait parce qu'il y avait perdu 10 millions. Mais après, la Formule E a réclamé à la ville 30 millions. Mmh. Et un peu plus après, Madame Plante fait l'annoncement que moi, je suis très heureuse pour la Formule 1, mais quand même, c'est 70 millions qu'on investit sur les circuits de Formule 1. Et c'est ça que je trouvais un peu contradictoire. Je disais, comment, pourquoi le monde est contre la Formule 1 et tout le monde y veut des voitures électriques, qu'est-ce qui se passe? Mais ça, à Vancouver, ça sent pas bon, comme l'a dit Julien. Il n'y a même pas annulation officielle, il n'y en a pas. Il continue dans le calendrier comme dans la Formule 1, ça continue. Et il n'est pas annulé, il est encore là.
J'ai regardé... tout à l'heure, en préparant l'émission, avant de venir
sur
le site de la Formule 1, il y a le communiqué de OSS en lien avec la Formule 1, mais je crois que la mise à jour va être faite en temps et lieu, en fait.
Oui, parce que ça là, c'était pas officiel, c'était pas un accord, c'était pas une question de COVID, parce que si c'était une question de COVID, oui, ils vont s'arranger pour pas demander de dommages. Mais maintenant, est-ce que c'était plutôt une question d'organisation qui était pas fait à temps? En plus, il y avait des billets qui étaient déjà vendus parce qu'il dit qu'ils m'ont remboursé le monde pour qu'est-ce qu'il avait acheté déjà les billets. Ça a l'air que. Et la Formule 1 n'est pas question de remède parce que Madame Plante essayait de ne pas payer le dédommagement et trouver une autre place et remis la course à d'autres années. Avant, disons, on va la faire en 2023, mais la Formule 1 a dit non, je ne vous fais plus confiance.
Ouais, mais en plus, et dans un article que du Vancouver Sun, il y a de cela trois semaines, qui explique un peu en détail, en fait, les détails sur ce qui est devenu, en fait, l'annulation. Évidemment, il y a eu 33 000 billets déjà vendus depuis l'annonce officielle l'année dernière, mais
Le groupe OSS a manqué la date limite pour envoyer à la ville de Vancouver des documents permis pour organiser ce qu'on appelle le Canadian E-Fest, qui est en fait le festival englobait la course de formule électrique qui devait avoir lieu samedi le 2 juillet, donc le lendemain de la fête du Canada, mais aussi un spectacle de Nickelback vendredi, Rock On. Aussi, il y avait des compétitions de e-sports qui étaient reliées à ça et des conférences sur l'environnement avec, je pense entre autres, l'ancien président du Mexique, Felipe Calderón. Puis, je me souviens plus, j'avais son nom. J'avais son nom, Erin Brockovich, qui est une activiste reconnue aussi dans le milieu de l'environnement qui devait être présent dans la conférence du Canadian E-Fest. Donc tout ça, ça a été, ils ont manqué le bateau, comme on dit. En plus, et pourtant, ils avaient payé à la base les 350 000 $ de dépôt et après, ils avaient payé juste avant, en février, un premier dépôt de 150 000 $. Mais là, tout ça est tombé à l'eau. Donc, et pourtant, je trouve que la Colombie-Britannique, ben, Vancouver aurait été un très bon endroit, contrairement à Montréal, où cette fois-ci, ce n'est pas un aspect politique. Mais Vancouver, j'ai découvert ça aussi, c'est une ben, Colombie-Britannique, c'est une des provinces au Canada où, quand même, l'électrification, les voitures électriques se vendent assez bien, Julien.
Oui, tout à fait. Puis, je levais ma main tout simplement, un petit erreur que je vais tout de suite corriger pendant qu'on enregistre. La citation comme quoi le 35 millions de dollars des contribuables serait un fiasco. C'était pas la mairie de Vancouver qui avait mentionné ça, mais c'est plutôt les conseillers municipaux de Montréal à l'époque. Donc, petite erreur de ma part, mais ceci dit, c'est quand même le seul précédent qu'il y a. Et c'est au Canada sur la question des fiascos économiques. Et c'est présentement, tous les médias, ben, la plupart des médias canadiens font un parallèle entre la situation de Montréal et la situation de Vancouver. Donc, cette image-là de fiasco économique persiste encore en 2022. De sorte que la formule, même s'ils ne sont pas les promoteurs de l'événement, et c'est plutôt OSS, ils ont quand même un grand défi quant à l'image, d'autant plus que leur première édition, qui s'annonçait quand même relevée, très importante, a été complètement annulée. Donc, vraiment, tout un défi pour le promoteur. Je te laisse continuer, Abdou.
Je regardais dans le toujours dans le Vancouver Sun, on avait le représentant des nouvelles voitures, l'association des concessionnaires de nouvelles voitures de la Colombie-Britannique et le Salon de l'Auto International de Vancouver qui ont été, et je cite, surpris et apparemment mécontents de voir le logo apparaître sur la page de l'événement du Canadian E-Fest. Donc, en notant cette course, j'avais hâte d'y aller, mais quand on apprend que des représentants n'étaient pas contents de voir le logo de leur compagnie sur un événement comme le Canadian E-Fest, comme le prix de Vancouver, disons, ça part un peu sur les mauvais chapeaux de roue, si on peut dire. Mais ça aurait été vraiment cool qu'il y ait justement ce genre de partenariat, parce que je trouve que la Colombie-Britannique est un bon endroit justement pour l'électrification. Vancouver est un bel endroit justement pour démontrer cet aspect. C'est juste dommage que ce ne soit pas pour 2022, plutôt pour 2023. Encore là.
Non, il n'y avait rien confirmé et j'ai fait la blague et peut-être qu'ils sont trop proches d'Alberta et j'aime trop les gaz.
Oh my God. Boy.
Bon, si je peux répondre à ça, Anna, je te dirais que les relations entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, c'était aussi, sont pas très bonnes. Donc, c'est, je pense pas que ça puisse être sur ce motif-là qui s'appuie notamment.
Effectivement. Donc, ben, au moins, Julien, si ça peut te rassurer, écoute, je ne vais pas t'épargner là-dessus. Ben, c'est une course de moins pour ton cher Antonio Wynne. Oui, bon, il va pouvoir.
Une chance que je n'ai pas acheté les billets, hein, parce que j'étais prêt à acheter les billets. J'ai dit, OK, on va aller à Vancouver et finalement, on va convaincre quelqu'un avec la Formule E. OK.
Mais qui sait, mon rêve aurait pu se réaliser. Hein. Tu remportes le Grand Prix de Vancouver et décides de devenir citoyen canadien. Alors, là,
ça, je suis d'accord.
Ça. Je soulève l'idée, mais ça attendra peut-être en 2023.
Ouais, donc ouais, c'est juste dommage. Bon, au moins on va tous planifier nos vacances, pas seulement en fonction du Grand Prix du Canada, mais du E-Prix de Vancouver, en espérant que
il va aller à New York.
j'ai vraiment envie de retourner à New York. Bref, c'est ce qui complète cet épisode du bulletin GP. Somme toute, c'est difficile. Est-ce que j'ai manqué une blague? Non?
Non.
C'est juste un fou rire que... C'est juste un fou rire. Oups, oups.
Donc, c'est la conclusion qui est à l'image du podcast, c'est-à-dire qu'on va... Voilà.
Effectivement, ouais. Oh boy! Écoute, c'est aussi rocambolesque que les derniers tours de Charles Leclerc. Voilà. Aïe! Donc, évidemment, vous pouvez écouter nos anciens épisodes, oui, sur bulletingp.com et sur toutes vos plateformes de podcast préférées. Mais évidemment, vous pouvez rejoindre le groupe La Monoplace, dans lequel on fait partie, incluant Julien, surtout, qui est le cofondateur avec son frère. On va mettre sur... la page sur le site du bulletin GP ainsi que sur l'épisode, et aussi rejoindre ses pages Facebook et Instagram de La Monoplace pour toutes les nouvelles, en fait. Donc, évidemment, Julien, c'est toujours un plaisir de t'avoir, surtout aujourd'hui, en fait. Donc, un énorme merci.
Merci à toi, Abdou. Merci, Anna. Puis je remercie tout le monde de votre écoute. C'est toujours un plaisir d'être invité au bulletin GP et puis de faire un podcast d'une aussi grande qualité.
Et évidemment, si vous voulez continuer la discussion, on est disponible sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingp. Évidemment, si vous voulez nous dire que on n'a pas d'allure parce qu'on défend la population de Miami qui se plaint, ben en fait, ne le faites pas, mais on vous a donné on vous a donné l'identifiant du bulletin GP. Et évidemment, en fin de semaine, il y aura, espérons-le, un autre DT pensé où justement, je vais revenir un peu sur le E-Prix de Vancouver qui a été annulé. Donc, bulletingp.com pour la lecture du DT pensé numéro 2 en 2022. Anna-Maria, merci d'avoir été là.
Merci à toi, Abdou.
Ça fait grandement plaisir. Puis Julien, la porte est toujours ouverte pour te réinviter. Évidemment, écoute, Anna-Maria adore t'entendre ta voix et tes arguments aussi. Donc, je crois que tu as de très bons alliés ici au bulletin GP. Moi premier.
C'est très aimable de votre part. Puis merci pour vos bons mots. Je fais abstraction de ceux par vous dites à l'égard d'Antonio Giovinazzi, mais autrement, je vous apprécie également.
Évidemment, Julien sera de retour au bulletin GP cette année, ça c'est certain. Alors, mon nom est Abdou Sall. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du bulletin GP. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine.